Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours!
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Salut au Périgord.
RLP.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une émission sur l'agriculture. Avec un invité tout particulier, Jérôme Guyot, donc qui est ancien prof de lycée agricole à Coulonnier-Chamiers, donc tu connais bien l'endroit, et tu es président de Terre de Liens en Aquitaine. D'abord, bonjour Stéphane.
Bonjour.
T'ai oublié. Avant que tu n'envoies ta salve, j'aimerais poser une question. Quelle est la différence entre culture et agriculture ?
Il y a la question de la culture et la question de l'agriculture sont deux choses complètement différentes. Alors qu'il y ait des éléments culturels dans l'agriculture, c'est une évidence. Par contre, pour rapprocher l'agriculture de la culture, c'est un peu plus compliqué.
Et si on met la culture sous la forme de cultiver, faire sa petite culture ?
Ben c'est pareil, hein. Je veux dire, l'important, c'est effectivement de savoir de quoi on parle quand on parle de culture.
D'accord. Stéphane, toi, est-ce que tu as un petit mot là-dessus, différence culture et agriculture ?
Ça sera évoqué un peu dans mon introduction.
Évoque-nous ça, s'il te plaît.
Interrogeons-nous sur l'évolution des rapports entre l'homme et la nature. Si l'on résume l'humanité au genre Homo sapiens, nous sommes apparus il y a 300 000 ans. Nous étions cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, donc nomades. Puis arriva la révolution du néolithique, aux environs de 10 000 avant Jésus-Christ. L'homme ne subit plus les affres de la nature, il tente de prendre le contrôle de celle-ci. Nous assistons à l'apparition de l'agriculture et de l'élevage au sein de cette région du monde que nous appelons le croissant fertile. Les conséquences pour l'humanité sont sans précédent. Le rapport de l'homme à la terre est bouleversé, car celle-ci est mise en valeur. Apparaissent donc les civilisations, l'urbanisme, les guerres de conquête territoriale. L'agriculture a besoin de bras et les sociétés indo-européennes s'organisent autour de la division tripartie où l'agriculteur représente la grande majorité des effectifs. Plus tard, au XVIIIe siècle, l'agriculture européenne va subir une évolution majeure par l'utilisation de nouvelles techniques. Cela va libérer des bras et des capitaux qui pourront être utilisés lors de la révolution industrielle à venir. Enfin, au milieu du XXe siècle, grâce aux progrès techniques de la chimie et de la mécanisation intensive, l'agriculture va atteindre des rendements jusque-là inimaginables, permettant, espérait-on, de nourrir la planète en dépit de l'accroissement démographique. Pour conclure, rappelons que l'homme a vécu bien plus longtemps sans agriculture qu'avec, et que celle-ci a grandement contribué à l'élévation du niveau de vie de l'humanité. Et pour ouvrir le débat, osons une affirmation provocante concernant le rôle de l'agriculture. Premièrement, celle-ci doit permettre de nourrir les habitants de la planète. Deuxièmement, celle-ci doit le faire de manière saine pour les humains et pour la nature. Ces deux exigences n'étant pas permutables, il faut d'abord manger avant de bien manger.
Bon, ben oui, il y a une différence hein, entre bien manger et nourrir tout le monde. En regardant, en préparant l'émission, moi je me suis rendu compte que l'agriculture, en fait, j'y connaissais rien du tout. Il y a plein de mots, il y a plein de vocabulaire, c'est très intellectuel comme milieu, mais entre agriculture raisonnée, agriculture, j'ai trouvé synthroptique, biologique, conventionnelle, biodynamique, conservation des sols, durable,
il y a la tout permaculture
un tas de,
aussi.
Permaculture, il y a tout un tas de mots qui ne veulent pas dire la même chose, mais qui touchent le même thème. Est-ce qu'on peut en survoler quelques-uns, si tu veux bien nous éclairer, par exemple, sur c'est quoi de la culture raisonnée ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce...
Alors ça, c'est une invention, hein, la culture raisonnée. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est un terme qui a été utilisé par les gens qui ne la pratiquaient pas. C'est-à-dire que tout à coup, devant l'urgence environnementale, il y a eu cette tentative de récupérer le passage à l'agriculture biologique en disant « Non, on ne va pas aller jusqu'à l'agriculture biologique, on va faire de l'agriculture raisonnée ». Mais c'est les gens qui n'étaient pas raisonnables qui ont utilisé ce terme-là. D'accord. Et ça, c'est assez typique, hein, je veux dire, de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Quoi.
Et la culture biologique, alors ?
Alors, moi je ne suis absolument pas spécialiste hein, de toutes les chapelles hein, de l'agriculture biologique. Par contre, il y a une chose qui est sûre, moi je raisonne plus en, je dirais, en biologiste, hein, c'est-à-dire qu'il y a des agricultures qui respectent l'environnement, qui respectent le vivant, et celles qui ne le respectent pas. Et c'est, pour moi, c'est déjà une frontière extrêmement claire. Il y a une agriculture qui respecte les sols, et il y a une agriculture qui se sert des sols comme support. Et c'est, moi, c'est une marge moi, pour moi qui est extrêmement claire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'agriculture biologique ou dans l'agriculture respectueuse de l'environnement, on a cette question fondamentale du respect des sols et du fonctionnement des sols, du fonctionnement biologique des sols, et puis l'agriculture qui respecte les ressources en eau, c'est-à-dire qui ne rejette pas dans l'environnement une eau de mauvaise qualité, c'est une eau dangereuse. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire l'agriculture chimique, qui est extrêmement dispendieuse en eau, et puis surtout qui atteint à la qualité de l'environnement, et notamment de la biodiversité.
Est-ce qu'on pourrait dire, moi dans mon petit esprit fermé, que quand je ne comprends pas le mot, quand il est trop technique, c'est parce qu'on utilise une forme d'agriculture qui ne respecte pas forcément l'environnement? Est-ce qu'on ne fait pas un camouflage des fois avec les mots? Je prends le cas du mot biologique. Moi, je comprends très bien ce mot-là. Je vois ce que c'est, sans te demander, je vois ce que c'est que l'agriculture biologique. Alors que l'agriculture biodynamique, ça y est, ça m'a paumé.
Alors, la biodynamie, c'est pareil. Voilà, là, on rentre dans les chapelles. Hein. Ce qui caractérise la biodynamie, de toute façon, c'est d'être aussi du côté des agricultures qui respectent le vivant.
Est-ce que tu ne penses pas que l'agriculture en elle-même, c'est-à-dire l'agriculture de nos ancêtres, elle-même, est une agression de la nature? Que de toute façon, l'homme va laisser son empreinte, comme tout animal vivant. L'agriculture, même s'ils n'avaient pas les produits chimiques à l'époque, ils ont quand même déforesté, si on voit l'Europe, la déforestation a été énorme en Europe, et que le fait de devoir nourrir sa population nous oblige de toute façon à avoir une empreinte sur la nature.
Alors absolument, alors ça c'est un débat qu'on a même au sein de Terre de Liens, hein. C'est-à-dire que même dans le milieu, je dirais, de l'agriculture biologique, il y a une espèce de déni. Des fois, qui consiste à dire l'occupation du sol, des sols par l'agriculture n'a pas d'impact. C'est pas vrai. Il y a un vrai débat, mais qui est assez simple, c'est-à-dire d'accepter l'idée que l'agriculture au service de l'alimentation des hommes, de toute façon, elle impacte la nature. La question, c'est de savoir si elle l'impacte pas trop, c'est-à-dire si elle permet d'abord de ne pas dégrader la qualité des eaux, parce que ça, c'est absolument irrémédiable. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elle impacte trop, la biodiversité. Alors là encore, moi, j'aime pas le terme de biodiversité, parce que il a une connotation presque économique, c'est-à-dire que la biodiversité devient quantifiable. On parle de nombre d'espèces, on parle de nombre d'espèces à l'hectare ou au mètre carré. Pour moi, je préfère parler de la nature. Hein. C'était mon premier métier au ministère de l'Agriculture, hein, puisque j'étais coordonnateur d'un BTS qui s'appelait Gestion et protection de la nature, et je me désole de voir de la disparition de ce terme de nature. La nature et le sauvage, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est quelque chose sur lequel l'homme justement décide de ne pas avoir d'impact. Ou alors c'est la nature, c'est celle qui arrive à vivre, à continuer d'exister, malgré, je dirais, l'impact de l'homme. L'agriculture, non, c'est pas ça. L'agriculture, c'est de toute façon un impact humain sur l'espace. Et il y a forcément un impact sur la biodiversité.
Mais bon, on est bien d'accord que quand il y a un groupe à nourrir, il y a un moment, une réflexion à avoir sur où est-ce qu'on va occuper, comment on va occuper.
Le fait que l'homme existe, ou tout être vivant existe, il a une empreinte sur tout être vivant. On prend les sangliers. Trop de sangliers, ça ravage. Je ne parle pas des cultures. Ça ravage les forêts, ça ravage s'il y a trop de sangliers. Donc une population, quelle que soit sa forme de vie, elle a forcément un impact sur la nature.
Ouais. Enfin, le chasseur-cueilleur, c'était un prédateur.
Oui.
Et les dynamiques... je dirais, les dynamiques écologiques de la prédation, ce n'est pas du tout celle de ce que fait l'homme avec l'agriculture. Le prédateur, quand il n'y a plus assez de gibier, il se déplace.
Il se déplace.
Et donc, on a un équilibre qui se crée de cette façon-là. À partir du moment où on décide de s'implanter, de sédentariser et de faire de l'agriculture, on ne joue plus du tout dans la même cour. Là.
Tout à fait d'accord.
Alors du coup, quel choix d'agriculture ? Déjà, est-ce qu'il y a un choix idéal d'agriculture ? Lequel ?
Alors, choix idéal, je sais pas, hein, je veux dire, dans quel contexte, sous quelle latitude, ouais, etc., c'est quand même un petit peu compliqué. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que de toute façon, l'agriculture dont on a besoin pour nourrir les hommes, et notamment en France actuellement, on est tout à fait capable de la définir en ayant un impact limité sur la faune, sur la flore et sur la qualité de l'eau. Ça, c'est une chose évidente. Il y a la qualité de l'eau, puis il y a aussi ce fameux captage de carbone, c'est-à-dire la fixation du carbone dans les sols. Et alors, dans les études récentes qu'on a, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'une agriculture respectueuse des sols, donc une agriculture biologique, permet une fixation du carbone de façon considérable, c'est-à-dire même peut-être plus que pour une forêt. Donc ça veut dire que l'enjeu aujourd'hui du dérèglement climatique lié aux émissions de CO2 pourrait être réglé très largement à l'échelle planétaire par un changement de nature de l'agriculture pour revenir sur des sols vivants. Alors ça paraît assez hallucinant. Moi, je sais, quand je suis rentré dans l'enseignement agricole, jamais on parlait de sols vivants. Pour moi, le sol, c'était forcément vivant. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de parler des sols vivants, puisque justement, il y a toute une agriculture intensive qui s'est développée sur des sols morts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie bactérienne, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien dans les sols. Et donc, ça veut dire que cet élément fondamental, qui est le cycle du carbone, qui est opéré justement par des micro-organismes ou des macro-organismes du sol, eh bien, on l'a cassé. Et une fois qu'on l'a cassé, on est piégé, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire pousser les plantes avec des intrants, avec des engrais chimiques, etc. Ouais. La meilleure preuve de ça, c'est que quand on veut transformer une exploitation agricole en agriculture biologique, il y a un délai de 3 ans. Mais ce délai de 3 ans, il n'est pas tout à fait par hasard. Ce n'est pas une norme européenne imposée. C'est que si vous achetez une prairie qui a été gérée en conventionnel, c'est-à-dire avec des apports d'engrais azotés, etc., ben vous allez mettre 3 ans avant que cette prairie-là, sans aucun apport d'engrais chimiques, redémarre. C'est-à-dire qu'elle se remette à produire du végétal, simplement parce que le sol est mort. Ouais. Et donc, il va falloir attendre que tout ça se reconstitue.
Et toi, qu'est-ce que tu penses de la place de l'humain dans tout ça ? L'être humain au milieu du fonctionnement naturel. Pour toi, il devrait avoir quel comportement, en fait, cet être humain ?
Il devrait se rendre compte de son impact. Hein. On parle de l'anthropocène. Je veux dire, un jour, il va falloir prendre conscience du fait que l'impact de l'humanité sur l'écosystème Terre devient premier. C'est-à-dire que c'est vraiment, il prend la place sur tout le reste. Et cette conscience-là, je dirais qu'elle a beaucoup de mal à progresser.
Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé quand même d'une conscience, parce que une majorité de gens de la population étaient plutôt des agriculteurs. Ils avaient conscience que s'ils prélevaient plus là, ça avait un impact. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus cette conscience-là, à ton avis ?
Alors, le fameux bon sens paysan, hein, je veux dire, qui est issu du début du XXe siècle, hein, enfin, d'avant, mais qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. En 1936, 50% de la population active française est agricole. Donc ça veut dire que très peu de gens ne sont pas touchés par un parent qui est agriculteur. Donc ça veut dire que cette culture-là de bon sens et de rapport à l'agriculture, il existe dans la culture populaire. À partir du moment où on fait s'effondrer le nombre des agriculteurs en France, puisqu'aujourd'hui on est à moins de 3%, hein, ben y a toute une part de la population qui n'est plus en contact direct avec l'agriculture et donc qui n'est plus en capacité de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on interroge la population sur sa connaissance hein, du phénomène agricole, ben on a des vraies surprises. Des choses très très simples hein, sur la, à quelle période, je veux dire, l'herbe est appétante, à quelle période elle pousse, à quelle période les arbres redémarrent. Ben, toutes ces choses-là qui nous paraissent, qui étaient des évidences, ne le sont plus du tout. Et la deuxième chose qui est très importante à mon avis, c'est le choix qui a été fait du monde agricole de se refermer sur lui-même, c'est-à-dire considérer que l'agriculture c'était son problème et que ça ne regardait pas les citoyens.
J'ai une petite suggestion. Tu dis que, grosso modo, c'est parce qu'il y a moins en moins d'agriculteurs, donc les gens urbains n'ont plus de liens familiaux avec l'agriculture. Quand on est, comme je l'étais encore il n'y a pas si longtemps que ça, urbain, et qu'on achète tout fait, tout prêt, en boîte, surgelé, fait qu'on n'a même plus conscience de manger de la viande ou de manger... je me souviens, dans les années 70, on pouvait encore acheter des animaux vivants. Ce genre de choses a complètement disparu.
J'étais pas né, je suis effrayé par l'époque que tu as vécue dans ton enfance.
Oui, voilà.
Moi, je vais te raconter
mon
rapport à ça. Alors d'abord, je voudrais lever l'ambiguïté sur l'urbain et le rural, parce que les ruraux sont dans le même état. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit à Saint-Jean-de-Col qu'on est capable de tuer un lapin. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, cette histoire de rupture culturelle entre alimentation et agriculture, elle est effectivement patente et elle est liée à deux phénomènes concomitants. La première chose, c'est le monde agricole se referme sur lui. C'était tellement fort qu'il a même décidé d'avoir son propre système d'éducation. Oui. Je veux dire, il n'y a quand même pas beaucoup, à part l'armée, l'évêché et puis l'agriculture, ils ont leur système éducatif propre. Ce qui est quand même un choix qu'on peut trouver assez étonnant.
Oui, les lycées agricoles ne dépendent pas de l'éducation nationale.
Non, c'est du ministère de l'Agriculture. La deuxième chose, c'est que ce système-là a quand même été très orchestré par l'agro-industrie. C'est-à-dire que c'est le choix politique qui a été fait d'industrialiser l'alimentation de la population à travers des produits transformés industriels. Le tout... en accord avec le développement de la grande distribution. Donc là, on a un système agroalimentaire de production, de transformation et de distribution qui est pratiquement opaque, c'est-à-dire dans lequel, effectivement, on intervient très peu, on ne fait plus rien, on ne transforme rien. On achète et on mange. Et ce phénomène-là, moi je l'ai vu se construire, je vais vous raconter une histoire que je trouve assez drôle. Quand j'ai commencé mon métier de prof, j'étais prof de travaux manuels. Alors c'était, tu n'étais pas né je pense. C'était une période où en travaux manuels, avant la technologie, on faisait de la cuisine, on faisait des cours de cuisine. Et moi j'ai fait des cours de cuisine avec mes élèves qui apportaient des lapins vivants. Imaginez aujourd'hui, dans un collège, vous faites venir un lapin vivant, vous apprenez aux élèves à le tuer, à le transformer. Je veux dire, vous ne restez pas très longtemps dans l'éducation nationale.
un point rouge qui va te suivre.
C'est infernal. Or, ce rapport, je dirais, au vivant consommable, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Parce que ça veut dire qu'on retrouve, je dirais, notre impact sur le vivant.
Je suis assez content que tu arrives rapidement à cette idée-là, parce que moi qui suis novice du sujet, je pense qu'on peut se faire sa propre culture. On ne va pas tous retuer nos lapins chez nous ou nos poulets.
Non, c'est pas...
Oui, il n'y a pas d'enjeu à devoir faire ça absolument, mais effectivement qu'il y a peut-être quelque chose qui culturellement nous a été ablationné, en fait.
Mais il y a surtout quelque chose, moi, qui m'interpelle, c'est qu'en fait, il y a un vrai besoin de ça. C'est-à-dire que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que chaque être humain a ce besoin-là de rapport à la nature. Alors ça prend des formes assez étranges aujourd'hui, souvent un peu mystiques, de rapport à la forêt, etc. Mais ça correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'on a ce besoin-là pour notre équilibre psychologique d'avoir une relation à la nature. Et de quelle manière elle s'exprime ? Alors ça, c'est plus rigolo, ça devient un marché aussi. Regardez l'explosion du nombre de poules dans les jardins individuels. C'est un truc qui est très rigolo, mais ça correspond à une vraie volonté. C'est vrai que pour un môme, ou même pour un adulte, manger l'œuf de la poule qui a pondu dans son jardin, ben c'est une vraie expérience. Et c'est une expérience qui, à mon avis, nous fait grandir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça touche des choses toutes bêtes, qui sont très, très graves. Alors là, on parle de problèmes culturels. C'est la question du propre et du sale. C'est-à-dire, je vais bouffer un œuf qui a été pondu sur de la paille, et il y a un peu de crotte de poule, etc. Est-ce que j'accepte ça ? Quand je sais que dans le même temps, dans mon supermarché, il y a des normes complètement délirantes, je veux dire, pour vendre une salade qui a été trempée dans l'eau de Javel, etc. C'est ça qu'on interpelle. C'est quoi le propre et le sale ?
Ouais,
c'est
ouais.
quoi ? Et c'est, pour moi, c'est une dimension culturelle fondamentale si on veut arriver à régler notre désamour et notre conflit avec la nature, qui est toujours, je dirais, au détriment de la nature.
D'accord. On va se faire une petite pause musicale avec un morceau de Ridan qui s'appelle « L'agriculteur ».
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les plombs. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison.
De retour sur RLP, la bonne question avec Jérôme Guillot, donc notre invité, président de Terre de Liens Aquitaine. Les 4-5 organes principaux qui décident, qui ont du poids sur l'agriculture. C'est qui ?
Alors, on a bien compris quand même qu'au départ, hein, c'est un modèle agro-industriel hein, qui détermine un petit peu l'évolution des choses. Il faudrait y rajouter les lobbies du matériel agricole qui ont un rôle extrêmement important. Hein, c'est-à-dire que la disparition des haies, c'est d'abord la taille des tracteurs. Donc ça veut dire que si on veut vendre du matériel agricole pour pouvoir faire une agriculture industrielle, on a besoin d'énormément de matériel et les marques de matériel agricole ont une grosse responsabilité aussi sur le fonctionnement et le développement de ce modèle-là. Donc grande distribution, agro-industrie, agrochimie et matériel agricole. C'est là, en gros, que se construisent les politiques agricoles.
Qui peut avoir du poids sur eux pour qu'ils changent leur format ou leur...
Alors, les institutions, enfin, je pense aux ministères de l'agriculture, etc., sont à leur service. Donc le problème n'est pas, faut pas attendre d'eux qu'ils changent les choses. Ceci dit, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Et donc moi, je répondrai pas tellement à qui est responsable, mais comment est-ce qu'on peut effectivement détourner ce modèle-là. C'est-à-dire comment on peut se développer en marge de ce modèle dominant.
D'accord. Hein. Mais on pourrait pas avoir un poids sur la norme. Quand ils construisent, par exemple, un tracteur, limiter une norme, ils le font bien, je pense aux vignerons, par exemple, ces petits tracteurs-là qui sont faits pour passer dans les vignes, arrive bien à construire des choses quand même qui correspondent...
Aujourd'hui, les petits tracteurs dont tu parles, ils n'existent plus. Hein. Maintenant, c'est des vendangeurs qui sont quatre fois plus gros. Et donc, c'est pas comme ça qui résonne. Non, la vraie question, c'est comment mettre des grains de sable. C'est-à-dire comment faire en sorte que, effectivement, on puisse continuer à développer un autre modèle agricole. Alors, actuellement, je pense qu'on est dans une période intéressante. On l'a vu les semaines dernières, hein, avec quand même une révolte agricole assez forte. Et une révolte qui était emblématique, puisque les gens descendaient dans la rue avec des engins qui étaient absolument colossaux. C'est-à-dire qu'ils se plaignaient à juste titre de revenus vraiment insuffisants, mais ils le faisaient monter sur des engins qui valent trois années de SMIC. Hein. Donc ça veut dire que il y a un vrai problème, je veux dire, du modèle dominant, c'est-à-dire surendettement, matériel considérable, et puis aucune maîtrise des prix qui sont déterminés par l'agro-industrie et la grande distribution, et ils sont pieds et poings liés. Et effectivement, on en arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors après, comment faut s'organiser justement pour
faire un contre-pouvoir ?
Mais attends,
avant qu'on s'organise là, est-ce que tu peux nous donner deux trois entités, je parlais de la SAFER, qui sont importantes, qu'on comprenne un peu ce qu'il y a sur le champ organisationnel.
On a la chance en Dordogne d'avoir une SAFER extrêmement efficace et surtout qui remplit sa fonction. La SAFER, c'est un outil unique en Europe. Seule la France a une SAFER, c'est-à-dire un organisme qui a un droit de préemption pour permettre effectivement la protection du foncier agricole. Alors après, cet outil-là, au service de qui il est ? Ça, c'est la vraie question. En Dordogne, vraiment, la SAFER fait son travail, c'est-à-dire qu'elle met cet outil-là au service de l'installation agricole, en priorité, et en plus, sur l'installation de l'agriculture en agriculture biologique. Ce qui sont des directives régionales, mais qui ne sont pas appliquées de la même façon partout. Dans un pays libéral, avoir cet outil-là, c'est considérable.
Moi, je pense que c'est un point qui est vraiment très important pour aider les gens à comprendre qu'on se fait grignoter de la terre agricole, c'est-à-dire qu'on se fait retirer des espaces où on pourrait faire de l'alimentaire dessus. On se le fait grignoter, en fait, par des investissements, des investisseurs à qui on laisse la place de faire de l'habitat individuel, etc., etc. Et la SAFER, enfin, il y a des organismes comme ça en France qui aident, en fait, au...
Alors, je pense que pour cette histoire du foncier, qui est un peu la spécialité de Terre de Liens, hein, c'est la gestion du foncier. Il faut aussi avoir les choses très claires. Hein. C'est-à-dire qu'un département comme la Dordogne perd depuis 20 ans plus de 1000 hectares par an de surface agricole utile. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait que la Dordogne perde du foncier agricole. Dans la plupart des départements de Nouvelle-Aquitaine, je pense à la Gironde ou aux Landes, c'est de l'urbanisation ou de l'artificialisation. En ce moment, il y a le débat sur la LGV dans les Landes. Ben, la LGV, ça va être l'artificialisation d'une surface considérable, puisque l'emprise pour la LGV, je veux dire, elle est de 100 mètres, je crois. Donc vous imaginez une bande de 100 mètres qui descend de Bordeaux jusqu'à Hendaye, ça va faire une surface considérable. Ça, c'est de l'artificialisation, c'est du terrain qu'on retire à l'agriculture.
C'est comme si on retirait la Corse.
En Dordogne, ce n'est pas le cas. Nous, les grandes phases d'artificialisation, elles sont passées. C'était la 89. Et là, c'est en 1992 que les choses se sont faites. Donc ça commence à être ancien. Mais aujourd'hui, la perte de surface agricole utile, qui est quand même de 1300 hectares par an, ce qui est considérable, elle n'est absolument pas liée à l'urbanisation. Elle est liée simplement à la déprise agricole. C'est-à-dire que des terrains cultivés repartent à la nature. Alors les amoureux de la nature ne s'en plaignent pas forcément. Le problème, et c'est à ça que nous, à Terre de Liens, on essaye de s'attaquer, c'est qu'au bout d'un moment, on n'aura plus assez de terres agricoles pour nourrir notre population. Donc ça veut dire que ces 1300 hectares par an, c'est quand même vraiment inquiétant. Et c'est quand même le signe que l'agriculture ne va pas bien.
Tu viens de soulever un paradoxe très intéressant. Tu dis, les écolos, enfin les amoureux de la nature, disent, bon, ils sont contents, la nature reprend le dessus sur les terres agricoles. Tu me dis, il faut passer en bio, ou quelque chose qui s'approche, quelle que soit la dénomination, quelque chose qui s'approche du bio. Mais derrière tout ça, comment on va faire pour nourrir les gens? Si on perd des terres agricoles en bio, est-ce que tu peux déjà me dire quelles sont les pertes de productivité en bio par rapport à ce que j'appellerais le traditionnel, c'est-à-dire le chimique et mécanisé, quoi? Ça, c'est important de savoir quelle est la perte qu'on a dessus de productivité, parce qu'il va falloir compenser.
Alors, la perte de productivité, elle est évidente. Je veux dire, la moyenne de productivité pour une céréale, c'est, entre 50 et 80 hectos, donc à l'hectare. Et puis en bio, on va descendre à 25, 30 hectos à l'hectare. Donc, c'est effectivement. Donc, c'est pour ça que nous, on s'inquiète de la perte de foncier.
Donc, toi,
parce qu'on a besoin de plus.
Tu veux compenser la perte de productivité due à une agriculture plus respectueuse de la nature, la compenser avec plus de terres agricoles, en augmentant la surface des terres agricoles.
Absolument.
D'accord.
Et augmenter la surface, parce qu'on sait que justement, pour pouvoir nourrir la population, on aura besoin de plus de foncier. Donc on ne peut pas se permettre de laisser le foncier repartir à la nature.
Tu reconnais qu'il y a des gens qui ont un discours tout à fait contraire, c'est-à-dire ils veulent du bio, et puis de moins en moins d'emprise de l'homme sur le territoire, donc laisser la nature reprendre de la surface.
Ben, malheureusement, parce qu'en général, dans ce débat-là, c'est un débat de sourds. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et effectivement, la question de l'agriculture et de son emprise foncière, elle est très importante. À ce titre-là, je voudrais quand même, parce que c'est anecdotique, mais c'est très drôle. Hier soir, j'étais invité par le collectif Les Pieds dans le Plat à une rencontre avec une délégation d'agriculteurs en bio du Japon. Et on a discuté avec des gens qui sont en train de recoloniser les espaces foutus en l'air par Fukushima en agriculture biologique, donc 13 ans plus tard. Et là, c'est extrêmement intéressant de discuter avec des gens pour qui le foncier est une denrée
très rare. Très rare, oui.
Et le prix du foncier au Japon est absolument considérable. Et nous, on ne se rend pas compte qu'en Dordogne, en ce moment, on est en train de perdre, je dirais, la richesse de demain. C'est-à-dire que quand il va falloir effectivement nourrir nos populations avec autre chose qu'une agriculture intensive qui fait du 80 quintaux, 100 quintaux à l'hectare, qu'on aura besoin de surface pour pouvoir nourrir la population, eh ben on pleurera sur les hectares qu'on a laissés partir en friche.
Eh ben. Le problème, c'est même pas de pleurer, parce que quelque part, je m'excuse, mais c'est de ne pas avoir de famine. Ça peut arriver très vite. Si on fait des mauvais calculs, des mauvais investissements, en quelques années, on peut se retrouver au mieux dépendant de pays tiers, au pire en famine.
Oui. Alors on va pas.
Le premier, on y est un peu.
Mais ça va très vite. Hein. L'histoire nous montre qu'on peut très vite, quand il y a eu la collectivisation des terres, par exemple en Russie, en Ukraine, la famine, elle est arrivée très vite. Un peu poussée par Staline, mais elle est arrivée quand même très vite.
Est-ce qu'il y a d'autres entités comme ça qui sont importantes?
Le syndicalisme agricole, qui joue quand même un rôle extrêmement important. On l'a vu aussi encore ces derniers temps. Donc le rôle de la du syndicalisme agricole dominant, la FNSEA, joue un rôle extrêmement inquiétant. Moi, j'écoutais hier soir encore un discours de l'ancienne présidente de la FNSEA, donc Christiane Lambert, qui était éleveuse de porc dans le Cantal. Là, on est passé d'une éleveuse de porc dans le Cantal au directeur d'un des premiers groupes agroalimentaires de France. Là, je veux dire, c'est une dérive qui est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire que la FNSEA a mis à sa tête un des responsables majeurs de la crise agricole. Ouais. Et donc là, on peut se poser des questions sur effectivement son rôle. Alors ce qui est en train de se passer, j'espère, en tout cas, c'est une prise de conscience des syndiqués, que peut-être ils ont fait une erreur là. C'est-à-dire qu'ils ont mis à leur tête celui qui vraiment remet en cause le système. En tout cas, remet en cause leur viabilité.
Il ne va pas aider sur...
Ah ben non, il n'est pas parti pour ça. Hein.
Pause musicale avec Charlotte Julien, Tout le monde à la campagne.
J'ai bien du mal à m'habituer à tous ces gens qui sont pressés. Allez me dire pourquoi. Dans l'autobus et dans le train, on est serrés comme des lapins. C'est pas marrant ce truc-là. Si je pouvais dire ce que je pense, il y a bien longtemps que je l'aurais dit. Mais oui, mais oui. Allez hop. On va se payer du bon temps. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, faut pas rester ici. De la Côte d'Azur à la Bretagne, on sera bien mieux qu'à Paris.
Si seulement la vie était comme dans les films de Walt Disney, alors là j'aimerais ça. On serait tous des animaux avec des pattes et un museau, ça serait chouette ce truc-là. On s'en irait très loin de la ville, dans la forêt et dans la prairie. Mais oui, mais oui.
Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend. Tous les petits oiseaux nous accompagnent. On va se
La question d'après, c'était sur l'organisation des normes et le contrôle des semences.
C'est ce qu'on appelle. Alors, c'est très embêtant, cette idée des normes-là, parce que les revendications des agriculteurs sur leurs tracteurs, c'était effectivement disparition des normes.
Ben oui.
Sans se rendre compte que les normes qu'ils veulent faire disparaître, c'est les seules qui vont pouvoir nous sauver. C'est-à-dire que les normes environnementales, elles sont absolument indispensables. Par contre, ce qu'ils ne remettent pas en cause, c'est les règles. Du commerce et notamment la déréglementation des prix avec les importations, etc. Or ça, c'est l'agroalimentaire.
Bon, ils ont eu quand même 2-3 mots sur le lait.
Bien sûr, mais c'est enfin arrivé sur le haut un petit peu des revendications, cette question de rémunération des agriculteurs, parce que le problème, il est là.
Ouais. Hein,
aujourd'hui, moi, au lycée agricole, j'en parlais avec un de mes collègues, là, il y a une espèce d'effondrement des vocations. Moi, il y a eu un très beau slogan dans le mouvement agricole, c'était « Gamin, on en rêve, adulte, on en crève ». Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement juste. C'était la coordination rurale qui a mis ça sur un tracteur. Et là, j'ai trouvé ça très, très fort. Pourquoi ? Parce que moi, les élèves que j'avais au lycée agricole, il y avait plein de gens, plein de mômes qui étaient absolument... c'était un rêve pour eux de monter sur le tracteur, de reprendre la ferme, etc. Il y a une vraie crise des vocations qui est liée, je dirais, à l'image que renvoie ce métier-là, et notamment en termes de revenus. C'est-à-dire que prendre des risques... Moi, j'ai eu des étudiants, je me souviens, en BTS, qui, à même pas 20 ans, s'endettaient jusqu'à l'âge de la retraite. Ils prenaient des emprunts sur 40 ans, en empruntant 200, 300 000 euros, je veux dire, pour pouvoir s'installer. Moi, je veux dire, c'est moi-même... j'en serais totalement incapable. C'est-à-dire que c'est une prise de risque. Quand on sait qu'en plus, ils font ces emprunts-là sans avoir aucune maîtrise des prix, mais il faut être un peu fou. Je veux dire, si 20 ans plus tard, on se rend compte que c'est le métier qui se suicide le plus, ce n'est pas tout à fait par hasard. Je veux dire, il y a quand même une vraie risque. Alors, la question, c'est quoi les bras pour nous nourrir demain ? Je veux dire, qui va prendre le relais ? Alors, il y a une chose qui est assez rigolote, c'est qu'on est passé au niveau des installations de majoritairement des enfants du monde agricole à une population de néo-ruraux, les fameux non issus du milieu agricole, les NIMA, qui sont arrivés de façon assez massive, notamment suite au Covid, là, des gens qui ont... perte de repères, qui ont envie de redonner un sens à leur vie et qui viennent nous voir. Alors ces gens-là, ils passent un diplôme très particulier qui s'appelle le BPREA, qui est une espèce de brevet professionnel pour l'installation agricole. Mais il faut leur apprendre à cultiver. Il faut leur apprendre le métier. Quand on a un petit môme qui a eu à 2 ans, il avait déjà un tracteur sous le sapin de Noël et qui a monté sur le tracteur à 8 ans et à 12 ans, ça y est, il était à l'ensilage, etc. Celui-là, le former en agriculture, on peut aller tout de suite à des choses assez techniques, assez fortes, etc. Et on va lui donner les moyens d'avoir une vraie production agricole assez efficace, et même en passant en bio. Quand vous avez des gens qui ne connaissent strictement rien à l'agriculture et qui disent « moi, demain matin, je veux être paysan », là, le travail de formation, il est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est un travail que nous, on a mis en place avec notamment les espaces tests, etc.
On va se faire une autre petite pause, pas pour parler de la crise de la vocation, mais ça pourrait être lié avec un morceau « Le Loir-et-Cher » de Michel Delpech, qui va nous parler d'éloignement.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir, je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. M'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux.
passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous.
Pause terminée, de retour sur RLP, sur le thème de l'agriculture. On a fait un petit tour un petit peu de ce qui se passait. On a beaucoup parlé de normes. Enfin, moi, j'ai beaucoup orienté peut-être sur cet aspect-là, parce que pendant la semaine dernière, notamment avec le salon de l'agriculture qui s'est passé, j'ai du coup passé en revue pas mal de vidéos, et c'est ce qui revient, ces idées de normes. Mais il est vrai que quand on pose la question de l'après, ou de comment ne pas subir, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de réponses.
C'est faire en sorte que ce métier redevienne désirable. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que je dirais que les critères de la désirabilité d'une vie professionnelle, ils ne sont pas simples. Et notamment, la question de la rémunération n'est quand même pas tout à fait un luxe. Et puis la deuxième chose aussi, c'est le mode de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de sortir d'un modèle agricole qui fait que être agriculteur, ça a toujours été bien plus qu'un métier, mais c'était un mode de vie.
Ouais.
Et est-ce que les nouveaux arrivants, pour reprendre ce métier d'agriculteur, vont accepter justement ce mode de vie?
Alors ça peut être une des réponses. Les assos comme Terre de Liens peuvent être une réponse sur nos territoires ruraux pour éviter de subir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que Terre de Liens, sans aller trop même dans l'historique?
Alors, de Terre de Liens, le grand principe, ce qu'il faut comprendre de notre mission, c'est effectivement de favoriser l'installation agricole en enlevant une grosse épine du pied de ceux qui veulent s'installer, c'est le prix du foncier. C'est-à-dire qu'ils ne font pas l'investissement du foncier, mais simplement du matériel en fonction de leur choix technique.
D'accord.
Donc ça veut dire que vraiment, c'est une grosse épine du pied. Alors après, il faut que ça suive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus propriétaire de son outil de travail, ça veut dire qu'on ne peut plus compter dessus pour spéculer et pour se payer sa retraite. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'un fermier qui ne passe pas tous ses revenus dans le remboursement de ses emprunts à la banque, il va pouvoir cotiser à la place. C'est-à-dire qu'on va changer ce métier-là et on va faire en sorte de remettre en cause le choix terrible qui a été fait en 1947 de l'agriculture, c'est-à-dire de s'extraire pour les agriculteurs du régime général des cotisations, et qui font qu'aujourd'hui, un agriculteur, ses retraites, c'est absolument misérable. C'est-à-dire que pour payer sa retraite, l'agriculteur n'a d'autre moyen que de vendre au plus offrant. Or, le plus offrant n'est jamais un agriculteur.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'une des raisons de la disparition de la surface agricole utile, elle est là aussi.
Du coup, une des cibles de Terre de Liens, c'est d'acheter des terres agricoles, d'acheter surface.
On est très ambitieux, on a un terme un peu pompeux qui est la sanctuarisation du foncier agricole. C'est-à-dire que nous, on s'engage, et on est les seuls. Alors là, dans les entreprises de portage du foncier, on s'engage à ne jamais revendre. Ce qui va nous mettre d'ailleurs un modèle économique extrêmement, extrêmement dangereux, parce que nous, on ne peut pas se permettre de faire capoter une exploitation agricole. Donc, il faut bien les accompagner pour que ça marche, de façon à ce qu'ils continuent à nous payer des fermages.
C'est une asso.
C'est une association.
Du coup, tu ne peux jamais la fermer.
Non.
Ah la vache.
Mais ne me fais pas peur, mais si tu veux, là aujourd'hui, Terre de Liens, la foncière Terre de Liens, qui est propriétaire des fermes, c'est 350 fermes maintenant en France. Donc c'est pas tout à fait rien. En Dordogne, on en a quand même 11 fermes.
Oui, c'est beaucoup plus risqué qu'un banquier.
Absolument.
Ouais. Et quelles sont les autres actions de Terre de Liens?
Alors, ça, c'est la première action, c'est
capter des territoires.
Aider à l'installation, alors l'installation en bio, c'est-à-dire que nous, on fait signer un bail rural environnemental, c'est-à-dire qui est aussi solide qu'un bail rural classique, hein, où là, c'est vraiment un bail de protection de l'activité agricole. Hein, c'est très difficile de mettre dehors un bailleur. Hein, mais on y met une clause environnementale pour garantir que les sols ne seront pas dégradés, que les infrastructures écologiques ne seront pas dégradées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper de haies, on ne peut pas boucher de mares, on ne peut pas foutre en l'air les sols, etc. Voilà, donc cette agriculture-là, voilà, c'est vraiment notre mission, sanctuariser de façon à retirer, je dirais, de la spéculation foncière une surface agricole pour pouvoir la préserver, quoi.
D'accord. Je sais aussi qu'il y a d'autres missions où vous intervenez dans des instances de décision ou d'information. Je ne me rappelle plus tous les noms, parce que tout c'est avec des abréviations.
Alors on a vraiment une mission de plaidoyer, hein, c'est-à-dire que notre mission aussi, c'est effectivement de développer chez les citoyens cette culture de la compréhension de l'agriculture, hein, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire comment permettre aux citoyens de faire en sorte qu'ils aient leur mot à dire sur les choix agricoles. Moi, ce qui me surprend, ce qu'on a dit depuis le début, hein, c'est qu'il y a un repli sur soi sur le monde agricole et une espèce d'opacité qui fait qu'on ne comprend pas pour quelles raisons l'agriculture et les choix agricoles ne sont pas des choix politiques. Le problème, c'est que justement, c'est ce qu'on a appelé la co-gestion, hein, c'est-à-dire la construction de ce modèle de agroalimentaire qui s'est constitué de façon... en vase clos, hein, sans qu'il y ait d'intervention citoyenne, nous a amené à la situation actuelle. L'agriculture n'est pas un sujet politique. Et une des missions de Terre de Liens, c'est de faire en sorte que les gens se réapproprient ces choix-là, choix alimentaire.
C'est un sujet citoyen et c'est pas
absolument
un sujet
politique. Absolument. Voilà. Alors ce qui est très rigolo, c'est que pour que ça devienne un choix citoyen, il suffit de dire que ce n'est pas un problème agricole, mais que c'est un problème alimentaire. Et là, il y a une espèce de légitimité à parler d'alimentation, l'alimentation saine. Là, on passe sur le côté de la santé, on parle de ces choses-là. Dans notre travail, justement, avec le collectif là, à Périgueux, ce que j'explique aux élus, c'est que le circuit court, ça se cultive. C'est-à-dire que l'alimentation, ça se cultive. Et donc, arriver à comprendre qu'il y a un lien direct entre agriculture et alimentation... Ben c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que pour un élu qui a à gérer une cantine, l'alimentation y va à la grande distribution, et puis les questions agricoles, ça ne le regarde pas. Mais le jour où on lui dit, ben ouais, la loi Egalim, il faut faire du circuit court, ah ben il découvre que les carottes, ça se cultive. Et s'il n'a pas de carottes à cultiver sur son territoire, eh ben il est perdu.
Ouais, donc il y a cette loi Egalim.
Et donc ça, c'est un des gros chevaux de bataille, je dirais, de Terre de Liens, c'est de remettre du lien entre l'alimentation et l'agriculture de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire que vraiment, on essaye de faire en sorte qu'on refasse le lien, y compris politique, sur les modalités d'alimentation.
Vous allez pouvoir nous faire une bande dessinée, moi qui adore les bandes dessinées. Ok, est-ce que tu as une dernière question ?
Je trouve, j'ai un peu regardé sur le net, sur YouTube et tout ce qui était permaculture, Pierre Rabhier et tout ça. Et des fois, pas de tous, hein, je ne veux pas jeter le discrédit sur l'ensemble de ce système. Enfin, ce n'est pas un système, c'est un ensemble de personnes qui pensent de cette façon-là. Mais des fois, je trouve qu'il y a certaines fois des dérives que je pourrais pratiquement qualifier de sectaires. Je voulais savoir si toi, tu avais ressenti ça dans certains milieux où c'est « moi, j'ai la parole, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, moi, je sais que c'est comme ça ».
Avec des gourous
Ouais, un peu un côté gourou. Et puis, on voyait ça aussi avec la permaculture. L'Australien qui avait lancé la permaculture aussi, qui dit « moi, j'ai déposé le nom », alors qu'il n'avait jamais, il ne pouvait pas déposer le nom. Je veux le fric qui va derrière. Oui. Ben, y a quelque chose un peu le grand Skippy, quoi. Skippy, le grand gourou, pour référence des inconnus, quoi. Mais attention, hein, je ne jette pas l'opprobre sur... mais c'est quelque chose, on sent qu'il y en a certains qui
ont trouvé là... On pourra se poser la question de est-ce que le système libéral n'est pas venu aussi fourrer son nez là-dedans. Comme ils déglinguent le bio, alors que ils sont sautés sur l'occasion, ils ont fait des rayons dans leur supermarché de bio, et aujourd'hui, t'entends Leclerc qui vient te dire « oui, bon, bah, le bio, ça a un coût. C'est-à-dire que quand il te dit ça, il est en train de flinguer la place du bio à l'oreille des gens en disant « ce sera trop cher pour toi ». Donc ça, c'est des manières assez subtiles de défoncer un marché pour pouvoir garder le sien. Mmh. Est-ce que ça n'a pas été la même chose sur ces...
Là c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, hein, je parlais de Chapelle, moi. C'est-à-dire que Chapelle, on n'est pas loin du gourou, hein, surtout pour un... compte tenu de mon rapport aux religions. Mais dans tous les cas de figure, je dirais, on est sur une problématique complexe qui touche à la culture des gens, hein, qui touche à l'intime, c'est l'alimentation. Donc forcément, ben, on arrive à des dérives assez rapidement. Effectivement, des gens qui sont des donneurs de leçons. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens-là, c'est OK, mais mettez-vous au boulot, quoi. Et faites-nous la preuve qu'effectivement, on peut produire de l'alimentation humaine sans foutre en l'air l'environnement. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Terre de Liens. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Je veux dire, faut pas faire les malins. Mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui, on a fait le tour de nos fermes là en Dordogne. Bon, il y a des fermes qui marchent plus ou moins bien, mais c'est possible. Et donc, ça veut dire que le plus important, c'est de faire la preuve que c'est possible et de demander aux gens de nous accompagner pour aller vers ce système-là. Et moi, je n'ai pas la science infuse et la solution. Toutes les productions sont complexes. Hein, je veux dire, en Dordogne, nous, on a des paysans boulangers, on a des producteurs de fromage, on a des maraîchers, on a des éleveurs à Terre de Liens. Et l'important pour nous, c'est de prouver qu'ils sont en capacité de produire de l'alimentation. Moi, mon plus grand bonheur à Terre de Liens, c'était en plein Covid, quand on avait réussi à faire une vente à la ferme du côté de Mialet, là, où j'avais un maraîcher, j'avais un producteur de fromage, j'avais un producteur de volaille et de porc qui était en capacité très localement d'alimenter les gens qui trouvaient porte close à la grande distribution. Et ça, pour moi, c'était la preuve que oui, on était sur la bonne voie. Mais encore une fois, être des donneurs de leçons, moi, je m'en sens pas... Compte tenu de la difficulté qu'il y a à former, à installer et à faire vivre dignement un agriculteur, eh ben, je trouve que faut pas être trop donneur de leçons, quoi.
Ouais. Ok. Ben, on va passer au petit moment livre et lecture conseillée.
La Terre de Zola. Plus intéressant peut-être de Zola aussi, c'est Le Ventre de Paris.
Est-ce que tu as des livres?
Ah oui, des conseils. Hein. Alors, d'abord, toutes les publications de Terre de Liens. On a commencé par un ouvrage qui s'appelle « L'état des terres agricoles en France ». L'année d'après, donc l'année dernière, on avait « À qui appartient la terre ?» qui va sortir là. C'est sur le portage. J'aime bien là, parce que c'est Véronique Duval donc, qui est venue présenter son ouvrage à Périgueux. C'était pendant le salon du livre, pas du livre gourmand, mais un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait là, et qui s'appelle Paysans et citoyens, où elle parle d'ailleurs beaucoup de Terre de Liens, c'est pour ça que je le conseille bien sûr, mais c'est surtout une étude qui est assez intéressante sur justement la prise en charge par les citoyens de cette question agricole.
J'ai un film aussi à proposer. Qui n'est pas très ancien, je me souviens, parce que je l'avais vu à Exideuil quand j'étais à l'époque, je travaillais en région parisienne, avec Mathilde Seigné et Serrault.
Alors, si on a droit au film, moi j'en ai un. C'est le dernier film de Gilles Perret, qui s'appelle La ferme des Bertrands.
D'accord. Moi j'ai deux bandes dessinées. Il y en a une, c'est Le Champ des Possibles, édition Escale, Les Escales. Et Retour à la Terre, c'est une bande dessinée pour enfants, dont le premier tome est alloué à la vraie vie. Pour ceux qui aiment la permaculture, j'ai un copain qui a monté, ça s'appelle la librairie permaculturelle. Donc vous allez voir sur Internet, ceux qui aiment les gourous, c'est moi la main, oui.
Je le connais bien.
Voilà, qui a monté ça dans notre petit coin et c'est voilà. On peut trouver plein d'infos pour ceux qui veulent s'initier à la permaculture. Et voilà.
Alors moi, je pense que c'est un peu trop tard, mais je vais donner rendez-vous aux citoyens. Hein, d'abord à Thiviers, hein, tous les mardis soirs, tous les premiers mardis du mois. à 18h au Chaplin, où on fait des réunions justement pour discuter, présenter et mieux comprendre les enjeux agricoles et l'agriculture.
Très instructif. Eh ben, merci messieurs d'avoir été présents. Merci Stéphane, bonne continuation à toi. Merci. Jérôme, pareil. Prenez bien le soleil même si la pluie arrive. Et bonne continuation à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Au revoir.
Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours ! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.